Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Le 22 juin 1633, un certain Galilée fut condamné à Rome par le tribunal du Saint-Office. La sentence, prononcée par 10 cardinaux de l'Église catholique, appelés en la circonstance inquisiteurs généraux, eh bien cette sentence fut la suivante. « Nous te condamnons, dit le jugement, à la prison formelle de ce Saint-Office pour le temps qu'il nous plaira de fixer. De plus, au titre d'une pénitence salutaire, nous t'ordonnons de réciter les 7 psaumes de la pénitence salutaire une fois par semaine pendant les 3 prochaines années. » Et pourtant, Galilée ne fit pas un seul jour de prison, pas un seul, il ne récita pas plus les psaumes de la pénitence salutaire, puisqu'il confia ce pensum à un membre de sa famille qui s'en acquitta dûment. Et Galilée termina ses jours tranquillement à Acerti, près de Florence, où il vécut jusqu'à sa mort en 1642. Le nom de Galilée est généralement associé à un symbole, parfois même à un mythe, celui de la résistance à l'obscurantisme religieux en général et catholique en particulier. Pourtant, qui connaît réellement Galileo Galilei, fils de Vincenzio Galilei, né à Pise le 15 février 1564. Quelles furent ses spécialités scientifiques? Fut-il d'ailleurs un scientifique en avance sur son temps? Qu'a-t-il réellement inventé et légué à la science et à la postérité? Peut-on parler à son endroit de victime de l'Église et d'un obscurantisme réel? Bref, pourquoi Galilée fut-il condamné, c'est ce que je vous propose de découvrir au cours de cette émission, une émission bien surprenante et qui vous révélera quelques surprises. Aimé Richard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes historien, vous avez reçu en 1993 le Grand Prix d'Histoire de l'Académie française pour votre biographie consacrée à Fénelon et vous avez écrit bien d'autres ouvrages consacrés au grand siècle mais aussi au 18e siècle. Et vous venez de publier chez François-Xavier de Guibert un ouvrage que j'allais qualifier d'inattendu. Son titre est le suivant. La vérité sur l'affaire Galilée. C'est un livre écrit en collaboration avec Jean-Gérard Théobald, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie de Franche-Comté, une académie dont vous faites également partie. Pourquoi, Aimé Richard, un tel livre? Quelle en est sa genèse?
La genèse est la suivante. J'ai écrit un bouquin sur le cardinal Robert Bellarmin, qui d'ailleurs est Saint Robert Bellarmin, et en étudiant sa vie, je me suis rendu compte qu'en 1616, il avait convoqué un certain Galilée, dont j'ignorais à peu près tout, pour lui faire la leçon et lui demander de s'arrêter, de se poser en théologien. Alors, après avoir terminé la vie de ce pieux personnage, Bellarmin, dont il faut rappeler qu'il est à la fois saint et docteur de l'Église, enfin, ce qui est quelque chose de tout à fait prestigieux, quoi, c'est ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu Galilée, finalement, ce qu'il en est. Bon, comme tout le monde, je pensais que Galilée avait été un martyr, qu'il avait été torturé par l'Inquisition, qu'il avait passé probablement de nombreuses années dans les prisons de l'Inquisition. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Non, il n'a jamais fait un jour de prison. Bien sûr, il n'a jamais été martyrisé. Et il a toujours été très bien traité par l'Église, ayant eu beaucoup de chance. Et alors, à la suite de ça, je me suis dit, je vais me procurer un peu toutes les pièces, en particulier les pièces du procès, ce que j'ai fait, je les ai retraduites. Et puis, je me suis dit, je vais écrire un bouquin qui, au lieu de s'inspirer des différents bouquins du 19e siècle, du 20e siècle, va s'inspirer surtout des sources de l'époque de Galilée et de Bellarmin.
Parce qu'il existe une historiographie consacrée à Galilée qui est, malgré tout, assez importante.
Considérable. Il y a 200-250 bouquins, finalement, mais qui vont à peu près tous, en fait, dire une grosse partie, finalement, dans le même sens, c'est-à-dire attaquant l'Église,
oui,
finalement, et défendant Galilée.
Donc, bon. Il y a, dans la plupart de cette historiographie, il y a une forte dimension idéologique.
Certainement. Bon, ça a commencé quand? Ça a un peu commencé avec l'encyclopédie. Diderot a fait un article sur Galilée qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité.
Alors, je vous arrête tout de suite parce que c'est un point, cette légende, la création de la légende de Galilée, c'est un point que je souhaiterais aborder en fin d'émission. Donc, je me permets, Aimé Richard, de venir directement à votre ouvrage et peut-être dès ses premières pages. Il y a un grand avantage à votre ouvrage, c'est qu'il fait un point sur l'astronomie, j'allais dire des origines jusqu'au XVIIe siècle. Et on ne le sait pas, vous l'écrivez dès les premières lignes, l'astronomie est la première des sciences à apparaître dans l'histoire humaine. Pourquoi cela ?
Ben, si vous voulez, pourquoi ? Parce que je pense que les hommes regardent le ciel et ils ont essayé de comprendre presque de tout temps ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait des dieux dans le ciel, des divinités ? Est-ce que les catastrophes venaient du ciel ? Bon, ça c'est une chose. Ensuite, très rapidement, on a eu besoin de consulter le ciel aussi pour s'orienter sur les mers, s'orienter dans les déserts. Ensuite, les classes des prêtres ont pris en main aussi finalement l'interprétation des phénomènes célestes. Bon, c'était également utilisé en Égypte, par exemple, pour déterminer, disons, un peu le fonctionnement de l'agriculture, quand il fallait commencer à planter, quand il fallait commencer à récolter. Voilà, c'est...
Alors, cette notion du camp est importante, cette notion de temps est importante, parce qu'elle renvoie à l'idée de calendrier. C'est une vieille idée, le calendrier.
C'est une vieille idée. Les Égyptiens avaient un calendrier. Bon, les Babyloniens, finalement, avaient un calendrier 3000 ans avant notre ère. Bon, il faut noter que la plupart de ces calendriers, d'ailleurs, étaient lunaires, ce qui fait que, bon, au bout de quelques années, il fallait les recaler sur le calendrier solaire, comme, enfin, c'est tous les peuples qu'on connaît, enfin, tous les peuples, disons, civilisés, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, bien sûr, les Grecs, finalement, bien entendu, les Romains, quoi, ont eu des calendriers qui étaient souvent fort précis.
Alors, il y a un peuple qui, j'allais dire, est incontournable, on le retrouve systématiquement quand on parle de culture, c'est la Grèce. Et la Grèce, c'est elle qui a inventé la science telle que nous la connaissons aujourd'hui.
La Grèce a effectivement inventé la science, c'est-à-dire que là où des gens comme... Bon, les Égyptiens en cosmologie, zéro, tant égyptiens qu'israéliens, finalement pour eux, le monde, le ciel, c'était quelque chose qui était soutenu par quatre montagnes qui étaient aux quatre coins de la Terre, qui étaient plates, enfin donc rien d'intéressant. Les Babyloniens avaient pas mal travaillé la question, ils avaient identifié les cinq planètes plus la Lune et le Soleil, ils avaient inventé les signes du zodiaque. Bon, ils faisaient un mélange assez complexe d'astrologie et d'astronomie. Quoi. C'est ce qui permettait à la classe des prêtres de tenir un peu la ville en main. Quoi. Mais disons qu'on ne sortait pas, ça n'était pas de la science, c'était plutôt des cuisines, des mythologies. Les Grecs ont été les premiers finalement à sortir, à établir une cosmologie, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et on doit ça à Platon, ce merveilleux Platon, qui a dit, et ça a tenu jusqu'au XVIe siècle, qui parlant vraiment de l'astronomie ou de la cosmologie, disait, il faut qu'elle nous aide à comprendre, à comprendre les phénomènes. Quoi.
Oui.
Alors, pourquoi comprendre les phénomènes ? Ben, il est certain que quand les gens regardaient finalement les astres, c'est-à-dire les planètes, la manière dont ils se déplaçaient, on voyait des choses curieuses. On avait l'impression, par exemple, que certains s'arrêtaient. On avait l'impression que Mars, par exemple, partait à l'envers. Et pour comprendre ça, c'était à peu près incompréhensible. Donc, on est arrivé à créer des cosmologies très complexes. Les deux plus complexes étant, ma foi, celle d'Aristote, qui faisait appel à des sphères, et puis ensuite à celle de Ptolémée, qui faisait appel à des cercles, avec des cercles sur lesquels il y avait des épicycloïdes. Enfin, c'était un truc tout à fait astucieux.
Votre livre est très, très précis sur ces notions scientifiques. Vous décrivez avec minutie chaque pensée. Et alors, il se retire quelques idées qui sont importantes et qui montrent que finalement, ce n'est pas au XVIIe siècle qu'on a inventé l'héliocentrisme ou le géocentrisme. Il y a, je retiendrai deux idées avant Platon. D'abord, Thalès. Vous écrivez que c'est Thalès qui est le premier à dire que la Lune est illuminée par le Soleil.
Oui, c'est exact. Mais bon, Le plus important, finalement, à mon avis, est Aristote, quoi. Bon, ceci étant, il y a toujours eu deux écoles. Une école majeure qui était l'école où la Terre est au centre de tout. Et alors Aristote, finalement, le démontrait. Vous savez que pour les Grecs, il y avait quatre éléments qui étaient la Terre, l'eau, l'air et le feu. Alors il disait, ben voilà, les trois premiers éléments sont la Terre, le feu, finalement, est dans l'espace, et donc les astres, les planètes que nous voyons, sont des morceaux de feu qui se déplacent.
Oui, ça, oui, ça, oui. C'est...
Bon, et alors il disait, on démontre très facilement, disait-il, que la Terre est au centre de tout, c'est que tout objet lancé revient vers la Terre, retombe. Donc, il ne peut pas s'échapper. Donc, c'est la Terre qui est au centre. Il démontrait aussi que la Terre était parfaitement immobile. Il disait, lancez une pierre en l'air, elle va retomber exactement à l'endroit dont vous l'avez lancée. Or, si la Terre tournait, disait-il, ben, il est certain qu'elle ne retomberait pas au même endroit. Voilà. Bon, c'était intelligent, ça a tenu jusqu'à la fin du Moyen-Âge, quoi, cet argument.
Alors c'est très important, puisque pendant quasiment 12, 13 siècles, ou même 14 siècles, on ne va pas y évoluer. Cependant, je voudrais tout de même évoquer un personnage qui est Aristarque de Samos.
Aristarque de Samos, vous avez raison. Alors, Aristarque de Samos est probablement le premier avec Pythagore, mais enfin, Aristarque de Samos, on en est à peu près sûr, a émis l'idée que en fait, la Terre tournait autour du Soleil, ainsi que la Lune et les autres planètes. Quoi.
Bon, ouais, ouais. Bon,
il ne l'a bien sûr pas démontré, et ça n'a pas accroché. Quoi. Bon, c'était une idée. Vous savez, les Grecs, les savants grecs, travaillaient beaucoup d'une manière parfaitement admirable, d'ailleurs par hypothèse. Quoi. C'est-à-dire, on émettait des hypothèses, et puis ensuite, on regardait si on pouvait arriver, finalement, à les confirmer. Bon, son système ne marchait pas mieux, plutôt plus mal que le système d'Aristote, quoi, par la suite. Donc, voilà, c'est resté un peu une curiosité. Encore que elle était le système d'Aristarque, sera redécouvert plus tard par Copernic, qui d'ailleurs reconnaîtra en disant, je dois finalement l'idée de mon système aux Grecs. Et alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est une citation de quelqu'un de Sylvestre au XIe siècle, qui est merveilleuse, qui dit « Nous sommes des nains, dit-il, mais debout sur les épaules des géants qui nous ont précédés, nous voyons plus loin qu'eux. » C'est beau.
Alors, pendant 12 siècles, hein, vous l'avez dit, même davantage, ce sont deux personnages qui dominent au fond cette science, c'est Aristote et Ptolémée.
Voilà. Alors, Aristote avait mis au point, si vous voulez, la théorie des sphères. C'est-à-dire, pour lui, il y avait les planètes, ce qu'il appelait les planètes, les étoiles, qu'il appelait les fixes, étaient toutes fixées sur des sphères parfaitement transparentes, des sphères de cristal. La sphère tout à fait extérieure, qui était la sphère des fixes, tournait. Et pourquoi est-ce qu'elle tournait? Elle avait été mise en route par le premier moteur, c'est-à-dire par Dieu, qui l'avait poussé, qui lui avait donné l'impulsion, elle tournait. Et les mouvements de toutes les autres planètes se faisaient par frottement, finalement, de sphères les unes par rapport aux autres. Ceci étant, pour arriver à expliquer les phénomènes dont on a parlé, c'est-à-dire arrêt et rétrogradation, et pour suivre la volonté de Platon, c'est-à-dire sauver les apparences, on en revient toujours à ça, il avait été obligé de faire une usine à gaz assez abominable, il devait y avoir une quarantaine de sphères, quoi, pour expliquer le fonctionnement. Mais ça marchait. Ça permettait finalement de prédire avec pas mal de certitude des choses comme les éclipses, par exemple. Donc, ça a marché pendant 300 ans, quoi, à peu près, jusqu'à ce que, bon, plus le temps passait, évidemment, plus le décalage s'accentuait, parce que le truc des sphères, bon, d'abord, c'est des mouvements circulaires. Les mouvements circulaires, on verra plus tard avec Kepler que ça marche pas. Mais enfin, il y avait quelque chose qui collait pas. Et surtout, on n'arrive pas vraiment à expliquer les rétrogradations. On pouvait expliquer un peu finalement les arrêts, mais pas les rétrogradations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au IIIe siècle de notre ère, à ce moment-là, c'est un Grec qui vivait à Alexandrie, Ptolémée, qui a eu une idée de génie. Il faisait tourner les planètes sur des cercles, bien sûr, et le centre de ces cercles tournait autour de la Terre. Ce qui fait que c'est un mouvement qu'on appelle finalement la cycloïde. Quoi. C'est un peu le mouvement qu'on a quand on prend un point sur une roue de bicyclette, par exemple, qui tourne. Alors, ça permettait d'expliquer très bien l'arrêt et la rétrogradation. Donc, tout le monde a dit. Puis en plus, il éliminait les sphères, il venait au cercle, mais dans quoi il lui fallait quand même 36 cercles. Hein. C'était pas d'une simplicité absolue. J'ai essayé de le reconstruire géométriquement à la fin du bouquin.
Dans l'annexe. Oui.
Voilà, c'est ça. C'est intéressant, mais c'est complexe. Mmh. Mais ça a marché, et c'est demeuré l'astronomie jusqu'au 15e siècle. Mmh. C'est-à-dire, pendant 13 siècles, ça a été Ptolémée, point.
Alors, comment ce système va réapparaître? C'est ce que nous verrons, Aimé Richard, après cette première pause. Nous entamons la seconde partie de cette émission consacrée à Galilée. J'ai l'honneur de recevoir Aimé Richard, lauréat de l'Académie française et auteur du livre « La vérité sur l'affaire Galilée », un livre paru chez François-Xavier de Guibert. Alors, nous avons évoqué, Aimé Richard, tout au long de cette première partie, ce que l'on savait à l'époque antique, hein, et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'au fond, ce sont les théories antiques qui vont réapparaître avec tout le mouvement de renaissance grecque à la fin du Moyen-Âge, qui se développe en même temps, au fond, que la Renaissance, donc qui va permettre aux astrologues de se référer donc à cette science qui est développée au temps antique.
Bien sûr, c'est-à-dire que, disons, grosso modo, entre le 4e siècle et le 11e siècle, il ne se passe rien. Mmh. C'est ce que j'appelle la longue nuit, c'est-à-dire que, bon, bah, l'Europe est tombée, finalement, la civilisation romaine a été détruite, les bibliothèques ont été incendiées, tout a été mis à sac. Il reste un certain nombre de manuscrits dans des monastères fortifiés, mais qui ne sont pas étudiés, ils sont repris. Bon, il y a quelques copies, comme Isidore de Séville, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transcrivent finalement des morceaux de manuscrits grecs.
Mmh. Alors en fait, on retrouve la Grèce par les Arabes. Ce sont les Arabes qui ont conservé, qui remettent en quelque sorte en avant.
Oui, alors là, si vous voulez, ce sont les Arabes qui ont pillé finalement les Grecs, c'est ça. Et les manuscrits finalement ont été traduits d'abord souvent en syriaque, puis ensuite en arabe. Puis ensuite sont arrivés finalement, surtout à Séville, mais enfin sont arrivés finalement en Espagne, et on a commencé à les traduire en latin. C'est-à-dire que ça a suivi une route assez compliquée. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Arabes, en astronomie hein, tout au moins, n'ont rien apporté. Leurs moyens d'observation n'étaient pas du tout différents de ceux des Grecs. Je pense qu'il s'intéressait plutôt à la partie astrologie. Mmh. C'est ça. Bon. Mais bon, ces manuscrits, une fois traduits, sont revenus finalement en Occident et ont commencé à être étudiés dans des universités comme celle de Padoue, comme celle de Bologne, comme celle de Paris. Mais alors, la théorie de Ptolémée, toute pure, elle satisfaisait tout le monde, finalement. Elle marchait, elle permettait de sauver les phénomènes, de sauver les apparences, comme le voulait Platon.
Et surtout, elle se conciliait avec les évangiles.
Alors, vous avez tout à fait raison. Alors là, les évangiles, finalement, c'est quelque chose qui va être au cœur de l'affaire de Galilée. Bon, qu'est-ce que disaient finalement les évangiles? Enfin, l'écriture en l'espèce, finalement, il y a plusieurs...
Oui, l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament, il y a plusieurs textes. Mais enfin, celui auquel on se réfère souvent, c'est celui du livre de Josué. Or, dans le livre de Josué, ben, Josué finalement, se bat avec une tribu adverse dans la Palestine, et puis pour pouvoir finir de massacrer cette tribu, parce que le jour commence à tomber, il demande à Dieu d'arrêter le soleil. Ce que fait Dieu, finalement. Or, les théologiens, finalement, les gens qui interprétaient finalement, les Écritures, d'une part, faisaient confiance aux scientifiques, toujours, disons, Ptolémée nous dit bien que c'est un système géocentriste, c'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers. Hein, il ne l'inventait pas, Ptolémée. Bon. Mais par ailleurs, il disait, ça nous permet finalement de renforcer la thèse de Ptolémée par ce qui est dit dans les Écritures. Mmh. Parce que si le Seigneur arrête le soleil, c'est bien que le soleil tourne autour de la Terre, quoi, c'est ça. Hein, et donc, ça n'est pas du tout l'idée que la Terre tourne autour du soleil, qui paraissait une idée complètement farfelue.
Alors, les thèses de Ptolémée sont au centre de la pensée, mais il y a un point très important, c'est, je reprends une citation de saint Thomas d'Aquin, et saint Thomas d'Aquin est très important, puisque c'est un des pères de l'Église, il réconcilie la foi et la raison, et saint Thomas dit, bien que ces hypothèses, à savoir celles de Ptolémée, paraissent sauver les apparences, il ne faut pas affirmer qu'elles sont vraies, car on pourrait peut-être expliquer les mouvements apparents des astres par quelque autre procédé que les humains n'ont point encore conçu. Ça montre toute l'ouverture, finalement, de l'Église.
De l'Église et de saint Thomas d'Aquin, qui est une intelligence finalement prodigieuse. Finalement, mais ça montre que loin d'être bloqué, finalement, l'Église disait, mais écoutez ce qu'elle a dit jusqu'à la fin du procès de Galilée. Écoutez, démontrez-nous, prouvez, ce qui n'a jamais été fait. Quoi, ça. Mmh. Mais elle était prête à accepter.
Mmh. Alors, donc c'est la thèse du géocentrisme qui prime au sein de l'Église.
C'est la seule. Mmh. Ouais, c'est la seule. Mmh.
Alors, il y a un personnage qui est évidemment incontournable dans cette étude, c'est Copernic. Et Copernic, il est considéré comme le fondateur de l'astronomie moderne. Et pourtant, tout fondateur qu'il est, vous l'écrivez, il a toujours gardé une sorte d'humilité, notamment en développant l'idée que la Terre pouvait tourner autour du Soleil. Mais pour lui, ce n'était qu'une hypothèse.
C'était qu'une hypothèse. Bon, il disait, j'ai beaucoup travaillé. Bon, ça n'était pas un grand observateur. Mais il disait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai trouvé beaucoup d'idées, finalement, chez les Grecs. Et je suis arrivé à la conclusion qu'on peut faire un système, disait-il, plus simple que celui de Ptolémée. Bon, le système de Copernic était extrêmement compliqué. On n'est d'ailleurs pas certain, finalement, que Galilée l'ait jamais lu en entier, parce que d'une part, les planètes ne tournaient pas vraiment autour du Soleil, mais enfin autour d'un point qui était un peu distant, finalement, du Soleil, de quelques diamètres, mais enfin, ça c'est une chose. Mais surtout, finalement, elles tournaient sur des cercles. Et ça peut pas marcher. Hein, on le verra avec Kepler, finalement, le système des ellipses. Pour Copernic, il en était demeuré au système des cercles. Et pour arriver à faire fonctionner ces systèmes, loin de simplifier, il arrivait avec plus de cercles que Ptolémée. Mmh. Hein, c'est-à-dire que, grosso modo, il y en avait 5-6 de plus. C'est-à-dire que ça continuait à être une construction géométrique tout à fait compliquée. Quoi, c'est ça. Mais en plus, il a toujours dit que c'était une hypothèse, et dans son bouquin qui est paru l'année de sa mort, même on lui a apporté d'ailleurs le jour de sa mort, ça devait être en 1543, la préface présentait finalement le système héliocentriste comme une hypothèse. Bon, je sais bien que c'est pas lui qui avait écrit la préface, c'était un de ses amis qui était un théologien protestant qui s'appelait Osiander qui l'a écrite, mais enfin, il n'empêche qu'ils étaient bien d'accord tous les deux pour ne pas présenter ça comme quelque chose d'absolu, mais en bon scientifique, en disant voilà, on pense que. Mmh. Voilà. Mais c'était sa position.
Alors là encore, l'Église reste ouverte, puisque vous citez notamment la lettre de Clément VII, dans laquelle finalement le pape demande à ce que les thèses et les idées de Copernic lui soient transmises.
Vous avez raison. C'était d'ailleurs, on avait envoyé un cardinal qui était le cardinal Schönberg, qui est allé voir Copernic, qui l'a encouragé fortement, parce que Copernic avait publié un premier bouquin finalement qui était un résumé de ses idées, mais dans lequel il y avait déjà cette idée de l'héliocentrisme, et le cardinal l'a encouragé fortement à mettre ça, toutes ces hypothèses, sous forme d'un bouquin, ce qui a été fait en 1543. Alors il faut noter d'ailleurs que autant l'Église catholique, finalement, voyaient ça finalement d'un bon œil, autant les églises protestantes ont été tout à fait contre. Hein, tant Luther que Calvin, finalement, ont dit ce Copernic est un fou. Finalement, et ce qu'il dit, ça va à l'encontre des Écritures. Mmh. Et puis on en est resté là. Quoi, ça.
Mmh. Oui, parce qu'il y a évidemment la question protestante hein, qui est parallèle. Les protestants s'intéressent également aux sciences.
J'en ai pas trouvé... ces grandes traces.
En tous les cas, elle juge la question des sciences. Elle juge les œuvres scientifiques comme elle l'a fait pour Copernic.
Oui, mais enfin, c'était au niveau personnel, hein, tant de Luther que Calvin. Quoi. Mais enfin, bon, disons que les débuts de la Réforme, ils avaient d'autres chats à fouetter, finalement.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, ne serait-ce que mettre à sac les biens de l'Église catholique. Ouais. Ce qui les occupait davantage que de s'occuper de sciences. Mmh.
Oui, c'est l'écriture seule. Hein. Est-ce que les idées de Copernic se diffusent?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'était tellement, son bouquin était tellement compliqué, à peu près illisible, que on ne va pas en parler. On va recommencer à en parler, ben, avec Kepler.
Quoi, mmh. Voilà, quel rôle joue Kepler, hein, parce que vous lui consacrez un chapitre, hein, tout le 9e chapitre, et vous le présentez comme le véritable fondateur de l'héliocentrisme scientifique.
Oui. Bon, c'était un personnage un peu curieux quand même. C'était bon, il était protestant, bien sûr, ça. Mais il était au moins aussi astrologue qu'astronome. D'ailleurs, finalement, dans son rôle qu'il avait à la cour, il devait écrire des almanachs dans lesquels l'almanach, en début d'année, ben, on prévoyait un petit peu ce qui allait se passer. Alors bon, ben, évidemment, il prévoyait du gel et de la neige en hiver. Il ne se mettait pas, il ne risquait pas grand-chose. Il prévoyait des attaques des Turcs. Ça arrivait aussi à peu près, finalement, tous les ans. Enfin, il faisait ça, quoi. Donc. Mais il a eu une idée de génie, enfin, trois idées de génie, qui sont les lois de Kepler. La plus importante étant que les planètes tournent autour du Soleil, mais elles ne tournent pas sur des cercles, elles tournent selon des ellipses, dont le Soleil occupe un des foyers. Et alors ça, d'un seul coup, finalement, c'était la création de l'astronomie moderne, cancer. Parce que tout était expliqué, on comprenait pourquoi il y avait des variations de vitesse, pourquoi il y avait des impressions d'arrêt, pourquoi est-ce qu'il y avait des impressions de rétrogradation, tout ça. Et on n'avait plus besoin de systèmes de cercles qui s'entrelaçaient les uns les autres. Chaque planète avait son orbite, mais qui était une orbite d'ellipse. Quoi, ça. Ça expliquait les variations de vitesse aussi quand la planète tournait autour du Soleil pour repartir finalement à l'autre extrémité de son ellipse.
Mais là encore, il n'a pas de postérité, ou en tous les cas, il aura une postérité bien plus tard. Mais à l'époque, la diffusion de son idée...
Ça n'a pas très bien marché. D'ailleurs, il faut noter que Galilée, finalement, n'a jamais cru aux ellipses. Hein, jamais. Lui, il est resté, finalement, la théorie de Copernic, les cercles. Et en plus, bon, bah, Kepler avait cette réputation un peu sulfureuse, ce qui fait que... Bon, d'autant plus que le grand astronome de l'époque, enfin des contemporains, qui était Tycho Brahe, qui était lui un astronome assez extraordinaire. Il avait fait construire des appareils gigantesques, des cadrans qui faisaient 5 mètres de haut, et il arrivait à des mesures avec des précisions de quelques minutes d'arc, ce qui était extraordinaire. Il n'y avait pas de télescope, hein, bien entendu, tout se faisait à l'œil nu, comme le faisaient les Grecs, comme le faisait Ptolémée, quoi, c'est ça. Et alors, lui, Tycho Brahe était arrivé à un système assez compliqué, mais qui marchait parfaitement aussi, dans lequel toutes les planètes tournaient autour du Soleil, sauf la Terre, et le Soleil tournait autour de la Terre. Alors c'était un truc compliqué, mais qui marchait. Donc voilà, c'est le grand astronome finalement de ce 16e siècle, c'est Tycho Brahe, et tout le monde se rallie, soit reste ptoléméen, soit se rallie à Tycho Brahe. Mais dans les deux cas, on a un système, c'est un système géocentriste. On n'en bouge pas.
Et mais Richard, nous nous retrouvons dans un instant.
Als wollte
êtes à l'écoute de Canal Academy. Un jour dans l'histoire reçoit Aimé Richard, lauréat de l'Académie française et auteur du livre La vérité sur l'affaire Galilée, un ouvrage paru chez François-Xavier de Guibert. Alors Aimé Richard, nous avons exposé au cours de ces deux premières parties d'émission toutes ces théories sur l'astronomie, qui sont des théories importantes, puisque finalement ce sont des théories qui vont s'opposer aux idées telles que Galilée va les présenter. Nous en arrivons donc à Galilée. Qui était ce fameux Galilée ?
Alors Galilée, c'était bien entendu un Italien. Il est né en 1564 à Pise. Il est entré en 1584 à l'université de Pise. Il s'est révélé intelligent, aimant les mathématiques. Il a émis quelques théories sur le centre de gravité des solides et il savait se faire des amis. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera finalement tout au long de sa vie.
Il est toujours bien entouré. Hein. Vous le présentez comme un personnage parfaitement bien entouré.
Parfaitement bien entouré.
Même pendant son procès, finalement.
Oui, bien sûr, puisque on verra que pendant le procès, il habitait pendant le procès dans l'appartement du procureur. Enfin, ce qui ne s'était jamais vu et ce qui ne se reverra jamais dans le tribunal de l'Inquisition. Bon. Donc, voilà. Bon, il se rend à Rome. Sa famille était pauvre. Son père était musicien, pas fortuné du tout. Sa mère ne travaillait pas. Son frère était un fumiste. Enfin, bref, c'était... Donc, il cherche le plus tôt possible à obtenir un poste de professeur de mathématiques dans une université pour pouvoir gagner sa vie.
C'est avant tout un professeur.
C'est avant tout un professeur, un mathématicien et un professeur. C'est-à-dire que au début, on ne parle pas du tout d'astronomie. Bon alors, grâce aux jésuites, ce qui est amusant d'ailleurs, parce que après, on verra qu'il était assez mal avec les jésuites, mais enfin, grâce à Clavius en particulier, il décroche un poste de professeur de mathématiques à Pise, où il passera 3 ans, de 1589 à 1592. Alors, il y a deux choses à noter. Je ne veux pas avoir l'air de charger Galilée, mais enfin, d'abord, on est certain, parce que j'ai retrouvé les textes, qu'il a crassusé son cours sur celui des jésuites de l'université de Rome. Enfin, il y a des pages qui sont rigoureusement identiques. Ça peut arriver. Finalement, on a tous chopé une page un jour à droite, à gauche. Mais enfin, lui, il ne s'en est jamais vanté. Mais enfin, c'est un fait. C'est comme ça. Et ses collègues le jugeaient plutôt comme un étudiant attardé que comme un jeune professeur. Parce que il se raillait d'eux, il les appelait des pastèques, ce qui ne rendait pas populaire, évidemment, dans le corps professoral. Et alors, il aimait à dire qu'il n'aimait pas la toge de professeur parce que quand il la mettait, il ne pouvait pas aller au bordel. On a noté ces points-là. Son contrat n'a pas été renouvelé. C'est-à-dire qu'il a fait ses 3 ans, puis on lui a dit « Merci, Seigneur Galilée, allez donc chercher autre chose. »
Il a un tempérament contestataire ?
Il a un tempérament dominateur. Il était sanguin, roux, ça n'a pas grand-chose à voir, mais enfin, pour le présenter, plutôt gros, c'est ça. Et il aimait bien être le premier, y compris quand il piquait quelque chose à quelqu'un d'autre, comme on le verra pour le télescope,
il va commencer à écrire, parce que les professeurs écrivaient à l'époque. Il y a notamment l'écriture de recherche sur la mécanique. Et il a l'idée aussi, très concrètement, de tourner une lunette vers les étoiles.
Arrivons à la lunette. Après avoir été viré finalement de Pise, grâce toujours à Clavius, au cardinal Del Monte, etc., il est nommé à Padoue en 1592, à l'université de Padoue, professeur de mathématiques, où il va demeurer jusqu'en 1610. Alors il se passe là finalement une chose, il enseigne les mathématiques, il enseignait l'astronomie, mais en étant un parfait ptoléméen. C'est-à-dire, il n'était pas question, finalement, il ne connaissait pas le système de Copernic. Alors, le système de Copernic, la première trace qu'on ait, c'est en 1597, où il écrit à Kepler pour lui dire « J'ai lu, finalement, les travaux finalement, de Copernic, et sa théorie, j'ai des preuves, je peux la prouver. » Évidemment, Kepler lui a répondu, c'est tout, mais enfin, faites-le, envoyez-moi le plus vite possible. Quoi. C'est... Bon, il n'a bien entendu jamais répondu, parce que jamais au cours de sa vie, il n'amènera le début du commencement d'une preuve de la théorie de Copernic. Quoi. C'est ça, hein, ce qu'il appelait une preuve, la théorie des marées, c'était une foutaise, ça tenait pas du tout. Quoi. Bon, alors, les télescopes, oui, on peut noter une chose, vous savez, vous avez un historien des sciences remarquable, un français, qui s'appelle Coiré. Connaissez, qui 1882-1964, il a écrit des expériences de Galilée, finalement, sur les poids qui tombaient, etc., qu'elles étaient, quote, totalement sans valeur. Quoi, c'est ça. Et c'est l'avis d'un petit peu tous les gens qui ont regardé ces travaux. Bon, la grosse chance de Galilée, ça va être l'affaire du télescope. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne l'a pas inventé, hein, bien sûr. Les premières longues vues sont apparues en Hollande en 1608. Pourquoi en Hollande? Parce qu'il y avait une industrie de lunetiers importante. Parce que on savait depuis le XIIIe siècle faire des lunettes pour corriger finalement la vue des gens qui vieillissaient. Quoi. Et il y a un jour finalement un lunetier qui a eu l'idée de coupler finalement ses lunettes à l'intérieur d'un tube et puis de mettre une lentille convexe, une lentille concave et puis de voir ce qui se passait. Et puis il s'est rendu compte que on grossissait. C'est-à-dire qu'on arrivait finalement à rapprocher des objets qui étaient loin. Et en 1608, on avait inventé la longue vue. Alors c'est des longues vues qui grossissaient de 6, 8, 10, quoi, pas plus. Enfin, c'était remarquable déjà. Et on a commencé ces longues vues à les vendre dans des magasins d'optique, que ça soit à Londres, que ça soit à Paris. Ça se vendait 3 ou 4 écus. Ouais. Et on appelait ça la longue vue, puis on s'en servait pour regarder ça. Et Galilée a été mis au courant. C'est-à-dire qu'en 1609, il a appris, comme pratiquement, j'imagine, tous les professeurs d'université en Italie, qui avaient un outil amusant qui venait de sortir et qui permettait de rapprocher finalement les objets éloignés. Or, en 1609, en août 1609, il apprend une chose qui l'intéresse beaucoup, c'est qu'un Hollandais vient d'arriver à Padoue et il a avec lui une de ses longues vues et qu'il a l'intention d'aller la présenter au Sénat de Venise, parce qu'il se dit ça doit intéresser beaucoup le Sénat de Venise pour en équiper les galères de façon à voir à distance finalement, par exemple, un pirate avant que le pirate ne puisse vous voir. Il faut ouvrir une petite parenthèse là pour dire que, comme Galilée avait des gros besoins d'argent, il en a eu toute sa vie, il avait ouvert dans sa maison un petit atelier où il fabriquait des appareils scientifiques. Il avait débauché un bon ouvrier de Venise, qui était Venise, il y avait un gros atelier, on construisait des galères, il fallait donc du matériel scientifique. Bon, il l'avait débauché, il l'avait installé à son compte, et il s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Il a demandé à un de ses amis, le frère Sarpi, qui était au mieux dans la République de Venise, qui faisait partie probablement du Conseil des Dix, il lui a dit, est-ce que tu peux faire coffrer ce Hollandais de façon à ce que j'ai accès à sa longue vue? Sitôt dit, sitôt fait, le Hollandais, on l'a coffré. Pourquoi? Je ne sais pas, probablement il devait être protestant, puis on a dû lui dire qu'il fallait vérifier ses papiers, enfin, toujours est-il qu'il a été coffré. On lui a enlevé son télescope, sa longue vue. La longue vue est arrivée dans l'atelier de Galilée, et Galilée, l'a démonté, c'était pas très compliqué, il y avait trois lentilles, quoi, a refabriqué finalement des lentilles, on faisait ça très bien, c'était des souffleurs de verre, on les a polis, il a fait des expériences, et en 8 jours, il s'est trouvé avec un télescope qui grossissait plus que l'appareil du Hollandais, qui devait grossir à peu près 30 à 50 fois. Grâce au frère Sarpi, il est allé tout courant le présenter au Sénat de Venise en disant, écoutez, je vous apporte cette invention qui est un don de Dieu, j'en fais présent à vos seigneuries. Alors j'ai regardé, effectivement, le général des galères a dit, mais c'est extraordinaire ce truc, et on l'a nommé professeur à vie, on lui a donné 3 ou 4 000 écus d'or, une somme finalement considérable.
Oui, mais lui, il tourne cette lunette vers la Lune.
Alors après, il avait effectivement, il a eu l'idée de se servir. Ça avait déjà été fait en Angleterre, mais il a eu l'idée, lui, de le faire finalement en Italie. Il l'a tourné vers la Lune. où il a vu qu'il y avait, la Lune n'était pas une sphère de cristal, comme on le disait, mais enfin qu'il y avait des montagnes dont il a pu mesurer à peu près, finalement, la hauteur, enfin, etc. Et surtout, il la tourne vers Jupiter, et il découvre, là, il fait une découverte vraiment originale, et il faut lui rendre ça, il découvre 4 satellites de Jupiter. Qui tourne autour de Jupiter. Alors, bon, c'est une découverte considérable. Et je veux dire qu'il, démontrant qu'il est aussi bon courtisan qu'astronome, il les appelle les planètes médicéennes. Par rapport, enfin, pour faire hommage finalement à la famille de Médicis qui était à Florence, et il se fait nommer du coup par le grand-duc de Florence, astronome, mathématicien et philosophe en chef de Florence. Donc il quitte Padoue et il vient s'installer à Florence. Il est le savant, quoi. Il a une réputation extraordinaire. Il fait regarder dans son télescope. Il va le présenter à Rome.
Mais même, oui, exactement, il a une aura importante à Rome, puisque vous présentez son deuxième voyage et vous le présentez pour lui comme un triomphe. Je vous cite, le séjour de Galilée dans la ville sainte tiré à sa fin, sa visite avait été un triomphe. Le cardinal Del Monte écrivit, si nous vivions encore sous l'ancienne République romaine, je crois sincèrement que l'on aurait érigé au Capitole une colonne en l'honneur de Galilée. Galilée, on dirait aujourd'hui, est une véritable star.
Voilà, c'est une star, c'est le savant qui permet finalement de voir. Parce que, alors, quand on regardait dans son télescope, on voyait des choses extraordinaires. Par exemple, un petit amas d'étoiles, on se rendait compte d'un seul coup qu'il n'y en avait pas 20 ou 30, mais qu'il y en avait quelques centaines, quoi. Donc on disait, il a considérablement augmenté le royaume des cieux. Et il était parfaitement bien accueilli. Il fait partie de l'Académie des Lynx. Enfin, les cardinaux, il a
l'Académie des Lynx, qui est en fait l'héritière de l'Académie pontificale des sciences.
Non, pas l'héritière, mais le prédécesseur.
Oui, pardon, le prédécesseur.
Oui, en partie. Vous avez raison. Enfin, donc, tout va pour le mieux. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas encore mêlé de théologie. Voilà, c'est...
Et alors, pourquoi, comment arrive-t-il au fond à la théorie de Copernic ? Parce que vous présentez l'exposé de la théorie de Copernic, il en parle pour la première fois, visiblement, dans une lettre publiquement, donc par écrit, dans une lettre à un certain Castelli. Et immédiatement, il y a une réaction. Il commence à se faire des ennemis.
Oui, oui. Alors,
vous me direz que c'est quand on devient de plus en plus connu que l'on commence à avoir des ennemis. Mais là, disons qu'il y a les premières charges.
Alors, pourquoi est-ce qu'il a adopté la... Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à voir, parce que manifestement, je suis à peu près persuadé qu'il ne l'a jamais lu en détail, parce que c'était une théorie copernicienne, comme je vous l'ai dit, très très compliquée, et qu'il aurait considérablement dépassé, puisqu'il dit la théorie de Copernic qui simplifie énormément la théorie de Ptolémée, ce n'est pas vrai. Elle était au moins aussi compliqué, sinon plus. Mais bon, il prend ça, probablement en se disant, bah tiens, finalement, c'est quelque chose de nouveau. Il s'appuie sur le fait de ces 4 satellites qui tournent autour de Jupiter. Vous voyez, puisque finalement, des satellites peuvent tourner autour de Jupiter, bah, Jupiter peut parfaitement tourner autour du Soleil et non pas autour de la Terre, quoi. Enfin, sans rien démontrer, quoi. Mais enfin, il en fait son affaire, quoi. C'est-à-dire, il devient un peu le champion de l'héliocentrisme. Bon, c'était nouveau, puis comme ça, bah, il s'oppose un peu à la science officielle des jésuites, et puis ça fait parler de lui, et puis, bon, il arrive à un moment où il est vraiment au sommet de sa gloire, et où il pense qu'il peut tout se permettre.
Alors, en face, il y a l'Église, et il y a notamment ce personnage que vous évoquiez en début d'émission, qui est Bellarmin. Et Bellarmin, au fond, vous le dites, là encore, il n'est pas vraiment opposé. Vous écrivez, il estimait qu'il fallait, en les proposant, se contenter de parler ex-suppositionné et non d'une manière absolue, car autrement, ce serait courir un grand risque de nuire à notre sainte foi en accusant l'Écriture d'erreur. Oui. Donc, il n'est pas exposé à...
Non, alors avant d'en arriver là, il y a quelque chose qui est un peu incompréhensible. C'est pourquoi est-ce que Galilée s'est mêlé de théologie et d'interprétation de l'écriture. Bon, vous savez que il y avait le Concile de Trente, qui est à l'origine de la contre-réforme et qui avait dit, bon, regardons ce qui s'est passé finalement avec les réformés en Allemagne, en Suisse, en France. À partir du moment où chacun peut penser qu'il peut interpréter les Écritures, on va vers le chaos. Hein, Luther finalement les interprète d'une manière, Calvin les interprète d'une autre, Karlstadt d'une troisième, Zwingli d'une quatrième. Donc le Concile de Trente avait pris une décision, un canon, qui disait seule l'Église catholique a le droit d'interpréter les Écritures. Point. Terminé. Personne d'autre. Nous. Donc les théologiens finalement. Or il se trouve que Galilée, alors que personne ne lui demandait rien, dit, mais il faut réinterpréter la manière dont on lit les Écritures, parce qu'en fait, il y a deux livres, il y a le livre Les Écritures proprement dites, qui peuvent se tromper, la manière dont on les interprète, hein, pouvant se tromper, et il y a le grand livre de la nature, qui lui a été écrit par Dieu, tout comme le grand livre des Écritures, mais lui ne peut pas se tromper. Donc il faut que le grand livre de la nature ait le pas sur la manière dont on interprète les Écritures. Alors on a commencé par lui dire sur une manière plaisante, on dit « Seigneur Galilée, n'entrez pas dans la sacristie ». Dans le genre, c'est pas votre métier, finalement, vous êtes astronome.
Mais on le prévient. On n'est pas en prison, non, immédiatement.
Pas en prison, d'ailleurs, il n'y a jamais été, finalement, en prison, c'est ça. Bon, et puis, l'affaire s'envenime un peu, parce qu'il réinsiste, ici, mais il faut absolument... Et en revenant toujours sur cette chose-là, il faut réinterpréter les Écritures. Alors, à un moment donné, les dominicains se fâchent. Vous savez, les dominicains, on les appelle les chiens du Seigneur. Quand c'est ça, les chiens noirs et blancs du Seigneur. Et ils avaient pour tâche de conserver, de défendre l'orthodoxie. Et ils commencent à s'inquiéter en disant qu'est-ce que c'est que ce savant, là, cet astronome qui vient donner des leçons à l'Église alors que le Concile de Trente a été d'une rigueur absolue en disant personne d'autre que nous, Église, ne pourra interpréter les Écritures.
Alors comment va avoir lieu la condamnation et finalement le procès de Galilée? C'est ce que nous verrons, Aimé Richard, après cette toute dernière pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Un jour dans l'histoire reçoit Aimé Richard, auteur du livre La vérité sur l'affaire Galilée, un ouvrage paru chez François-Xavier de Guibert. Nous en étions, Aimé Richard, avant cette pause, au moment avant la condamnation. Galilée expose de plus en plus cette théorie de l'héliocentrisme publiquement. Mais finalement, quand on regarde les dates de votre ouvrage, il écrit publiquement la théorie héliocentriste, ou en tous les cas, il la soutient publiquement par écrit dans une lettre en 1613. Et la condamnation date de 1633, c'est-à-dire 20 ans après.
Eh bien, non, justement, c'est là que est un peu finalement toute l'histoire de Galilée. La première condamnation est tombée en 1616, c'est-à-dire qu'à la suite des dénonciations des dominicains, une commission de théologiens a travaillé sur les idées de Galilée et le pape a demandé à Bellarmin de le recevoir pour lui expliquer qu'il fallait arrêter de faire de la théologie. Donc Bellarmin, qui était un esprit prodigieux, finalement, a déjà regardé l'affaire en disant, voyons, est-ce qu'il pourrait avoir raison? Non, parce que si on prend finalement les philosophes antiques, il y avait d'un côté Aristarque, il y avait Pythagore, mais d'un autre côté, il y a en face d'eux Aristote et Ptolémée. Si on regarde nos contemporains, on a les astronomes jésuites qui sont toujours pour le géocentrisme. On a Tycho Brahe, prodigieux, c'est le géocentrisme. Bon, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Copernic, mais qui a toujours dit que c'était une hypothèse. Il y a Kepler, mais bon, c'est une moitié d'astrologue, sa mère a failli être brûlée comme sorcière, enfin c'est pas extraordinairement sérieux. Il y a Galilée, mais enfin qui n'apporte aucune preuve, donc
la balance
manifestement
penche.
La balance pense. Il a donc fait venir Galilée en lui disant, écoutez, voilà, alors on vous permet de travailler par hypothèse. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tant que vous dites ce sont des hypothèses de travail. Mais on vous interdit d'enseigner la théorie de Copernic en disant qu'elle est vraie. On vous l'interdit. Et vous devez vous y engager. Galilée s'y engageait. Hein, c'est ça. De deux manières, par une manière un peu informelle avec Bellarmin, puis une manière beaucoup plus formelle qui a été notée par des dominicains qui étaient là. Bon, il a prétendu par la suite qu'il n'avait pas eu connaissance de documents, mais enfin, il était dans son dossier à l'Inquisition. Donc, de toute façon, en 1616, on lui dit, fini, terminé, continuez votre œuvre de scientifique, ne vous occupez plus de théologie, et donc, pour cela, n'enseignez plus, ne diffusez plus la théorie de Copernic. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a continué, évidemment. Et en particulier, il a donc fait un bouquin qui s'appelle, sur lequel repose tout le procès, qui s'appelle « Les deux grands systèmes du monde, le copernicien et le ptolémaïen ». Et alors, qui, un peu sur le mode de Platon, finalement, c'est un dialogue, un dialogue en quatre journées
entre trois personnes
qui sont, bon, l'un qui est tout à fait bon mathématicien, l'autre qui est quelqu'un d'intelligent, mais peu, et le troisième qui est un abruti qui s'appelle Simplicio, c'est ça.
Et le problème, c'est que le simplet, au fond, ressemble étrangement au pape, Urbain VIII, ce qui était en soi surprenant, parce que Galilée était très lié à Urbain VIII.
Mais oui, il l'avait connu comme jeune cardinal, ils avaient finalement sympathisé, on ne comprend pas. J'ai une théorie, je vous dirai à la fin, finalement, qui était ce que j'appelle hubris, parce que effectivement, bon, on revient toujours à ce qu'on a fini par appeler l'argument du pape, l'argument d'Urbain VIII. C'est-à-dire que quand ce malheureux Simplicio finalement est coincé, il dit oui, mais enfin, de toute façon, Dieu qui est tout puissant peut faire ce qu'il veut. Or, il se trouve que Urbain VIII utilisait fréquemment cet argument dans des discussions. Évidemment, les amis, entre guillemets, dominicains de Galilée sont allés mettre le bouquin finalement sous les yeux du pape en ayant probablement coché de tous les endroits où le bonnet de Simplicio tenait les propos. Alors, il y avait ça, puis il y avait quelque chose de plus sérieux aussi, c'est que Galilée prétendait démontrer la rotation de la Terre autour du Soleil par le mouvement des marées. Alors que on avait démontré, enfin Kepler avait démontré que c'était uniquement l'attraction de la Lune qui entraînait le mouvement des marées. Et le pape en avait été d'accord. Et le pape avait dit plusieurs fois à Galilée, je ne veux plus entendre parler de cette histoire de mouvement des marées. Quoi. Ça n'est pas vrai, c'est ça. Or, il remettait ça, finalement, dans son bouquin.
Il y a d'autres oppositions dans les idées, puisque Galilée, par exemple, vous décrivez l'apparition de trois comètes une année, et donc il y a une opposition dans la réalité de ce que sont les comètes. Voilà. Pour Galilée, ce n'était que des effets gazeux.
Oui, ce qui montre d'ailleurs que ce n'était pas un astronome de haute volée, qu'effectivement, bon, si on résume rapidement, il n'a jamais cru aux ellipses Kepler. Grosse erreur, quoi. Enfin, ça, c'était, finalement. Il n'a jamais cru, finalement, que c'est la Lune qui entraînait, finalement, les marées. Pour lui, c'était la double rotation de la Terre sur elle-même, puis de la Terre autour du Soleil. Et alors, quand les deux mouvements étaient, si vous voulez, en phase, ben, ça s'accélérait. Donc, l'eau partait dans une direction. Et quand les deux mouvements étaient en opposition, c'est-à-dire que la Terre avait fait un demi-tour, bah au contraire, finalement, ça se ralentissait et l'eau revenait. Enfin, ça n'était pas du tout la route. Hein, ça. Bon, il y a eu ça. Ensuite, il n'a jamais cru que les comètes étaient des corps solides. Il a toujours pensé, soutenu, que c'était des illusions d'optique. Bon, ce faisant, non seulement il a soutenu, c'était son droit, mais il s'est moqué cruellement, finalement, des astronomes jésuites.
L'humilité, finalement, de Copernic.
Il n'avait aucune humilité.
On retombe dans ce que vous évoquiez, à savoir l'hubris.
On disait de lui ce qu'on disait de Cicéron, il préférerait se faire 100 ennemis mortels plutôt que de ne pas faire un bon mot. Mais malheureusement, enfin, il s'en est encore pas très mal tiré.
Donc la condamnation est inévitable.
C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on l'appelle devant le tribunal de l'Inquisition. Il vient devant le tribunal de l'Inquisition, où d'ailleurs, au lieu d'être mis en prison, il commence par habiter chez l'ambassadeur de Florence à Rome, puis ensuite, il vient au Vatican, où il habite dans les 5 pièces qui appartiennent au procureur de l'inquisition, ce qui est quand même une faveur inouïe, quoi. C'était jamais vu, c'est ça. Et alors, il se présente. Et bon, j'ai repris toutes les pièces du procès. Alors, il y a un petit point qui est amusant, là, c'est qu'on commence par lui demander. Et ça, c'était quelque chose qui était particulier aux inquisiteurs. On ne disait jamais, vous êtes accusé de ceci. On disait, pourquoi pensez-vous être devant notre tribunal? Et ça permettait souvent de sortir des choses qui n'étaient pas dans le dossier. Et je disais, ah, peut-être parce que j'ai fait tel... Ah bien, alors expliquez-nous. Bon, Galilée, évidemment, dit, bah, ça doit être à cause de mon bouquin, Les deux systèmes du monde. On dit, bah, effectivement. Et alors, on lui demande donc, bah, pourquoi, alors qu'il s'était engagé à ne plus enseigner, défendre cette théorie, pourquoi est-ce qu'il l'a faite? Alors là, il ment d'une manière éhontée, en disant « Mais je ne l'ai pas fait du tout. D'ailleurs, dans mon bouquin, j'attaque au contraire la théorie de Copernic et je défends la théorie de Ptolémée. » Alors là, finalement, on sort les trois experts qui avaient travaillé sur la chose. « Mais écoutez, c'est quand même un peu gênant, mais parce que les trois experts qui ont lu votre bouquin, qui en ont fait des tas de citations, disent non. Dans ce livre, Galilée défend expressément la théorie de Copernic. » Ah oui, mais alors je suis prêt, dit-il, à renier ce que j'ai écrit, à rajouter 2 journées supplémentaires à mon œuvre pour démontrer le contraire, que la théorie de Copernic ne vaut rien, enfin, etc. Bon, enfin, puis il se met, il dit, bah, écoutez, faites de moi ce que vous voulez, parce qu'il se rend compte qu'il est dans une position tout à fait impossible. Puis il avait fait une chose qu'on lui avait interdite. Il avait menti, tout ça dans une Europe dont il faut se souvenir quand même que pendant ce temps-là, la guerre de 30 ans, finalement, vous voyez, des dizaines, des centaines de milliers de morts pour des faits infiniment moins graves que ça. Quoi. Bon. Donc il est condamné, et comme vous l'avez dit, il est condamné à 2 choses. Une prison dont le lieu et la durée seront déterminés par le tribunal, et réciter toutes les semaines les psaumes de la pénitence. Alors les psaumes de la pénitence, ça devait l'embêter, il demandait au pape de l'en... Non, bah, je voudrais pas. Alors, le pape lui donne l'autorisation de les faire dire par sa fille qui était religieuse. Donc, voilà. Déjà, on évacue les psaumes de la pénitence. Ensuite, la prison, bah, il va la faire, il va passer 6-7 mois chez un ami qui est archevêque. Et puis ensuite, il est assigné à résidence dans sa villa. Qui est à côté de Florence.
Mais on le voit, il peut rencontrer des gens.
Bon, j'ai trouvé une lettre amusante, évidemment, dans laquelle il écrivait à un ami pour lui demander de lui faire venir 100 bouteilles de vin et du meilleur et de hésiter. Enfin, que ça. Non, il vivait très, très bien. Il rédige des théories, des bouquins sur la mécanique.
Il continue à écrire.
Il a eu comme disciple, en particulier, Torricelli, vous savez, l'inventeur du baromètre, finalement, qui est venu chez lui, qui vivait avec lui. Non, il faisait très exactement ce qu'il voulait. Simplement, on lui a demandé attention, là maintenant, Copernic, on laisse Copernic tranquille et on ne parle plus d'héliocentrisme et il n'en a plus jamais parlé. Et il meurt au bout de 7-8 ans, parfaitement heureux. Quoi. Enfin, il a eu. Bon, alors, qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi est-ce que, alors qu'il était au fait des honneurs, il s'est lancé dans cette affaire, finalement, de théologie où il n'y avait rien à gagner? Alors, c'est là que je retrouve un peu ce qu'Aristote appelait hubris, qui est une sorte qui fait que les dieux rendent un homme fou. Et un homme, et pour le rendre fou, il le persuade qu'il peut s'égaler aux dieux. Voilà. On vaut guère que ça, parce qu'il n'avait rien à gagner.
Il n'avait rien à gagner. L'attitude est quasiment insensée.
Elle est insensée.
Et au fond, sa théorie, hein, vous le disiez, sur les marées, était, elle ne reposait sur rien.
Rien du tout. D'ailleurs, c'était pas facile de démontrer la rotation finalement de la Terre. Ce Foucault l'a fait au 19e siècle. Personne ne l'avait jamais démontré à l'époque non plus. Ceci étant, il faut savoir, bon, si on fait un petit peu de mathématiques, c'est amusant. On peut prendre n'importe quelle planète du système solaire, la mettre au centre et faire tourner tout le reste autour, y compris Einstein s'est amusé à faire ça avec Mercure au centre, le Soleil, la Lune et les planètes tournant autour de Mercure, et ça marche.
Ouais,
c'est ça. Hein, c'est... Donc,
Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Aimé Richard, et au fond, on s'aperçoit que la légende de l'obscurantisme et puis d'un Galilée victime de l'Église, c'est une légende qui apparaît avec le développement de l'anticléricalisme au XVIIIe siècle.
Vous avez raison. Et plus spécifiquement, je dirais avec le positivisme d'Auguste Comte. C'est-à-dire, vous savez, qui était une sorte de religion dans laquelle la science devait tout régler. Finalement, tous les maux, finalement, devaient disparaître et guérir. Mais toute religion a besoin de martyrs. Il en faut. Le martyr, on a trouvé Galilée. Et alors, on a commencé à sortir des choses qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Des peintures dans lesquelles on voyait ce malheureux chargé de fer avec une longue barbe blanche à genoux devant les inquisiteurs. Enfin, on a été dire les Russes dans des encyclopédies, enfin, les Russes, je dirais, communistes.
Oui, voilà, les encyclopédies. L'historiographie marxiste,
a été dire que, oui, il était un martyr de la science, qu'on voyait bien que l'Église était. Alors que, finalement, si on regarde l'histoire, enfin, tout au long du Moyen-Âge, si la science a un peu survécu au Moyen-Âge, elle le doit à l'Église. L'université des Jésuites, la grégorienne, finalement, c'était une université prestigieuse. Et c'était bien sûr une université catholique, bien entendu. Mais voilà, bon, il fallait un martyr, on en a trouvé un. Et puis alors, je dirais que chaque génération en a rajouté une couche, finalement, sur ce malheureux qui a été obligé d'avouer des choses alors qu'il avait raison. Pas du tout, il n'avait pas raison. Vous savez, on peut tout résumer par cette phrase, finalement, que vous avez citée tout à l'heure, qui est merveilleuse, de saint Thomas d'Aquin, mais aussi de Bellarmin, qui écrivait à Foscarini, qui défendait, finalement, Galilée. Il disait « Votre révérence et le Seigneur Galilée feront bien de s'en tenir à parler par hypothèse. » Parce que c'est ainsi que j'ai toujours compris que l'avait fait Copernic.
Eh bien, merci beaucoup, Aimé Richard, d'être venu nous présenter votre ouvrage au micro de Canal Académie. Votre ouvrage « La vérité sur l'affaire Galilée » paru chez François-Xavier de Guibert.
Merci de m'avoir invité, c'était plaisant.
Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.
Merci.